Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. On se caresse, on se cajole. On se comprend, on se console. Mais au bout du camp, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde.
Mais non, on n'est pas tout seul au monde. Et ce soir, on n'est pas seul puisqu'on accueille Guillaume Rousseau. Alors, qui est un personnage important de la faculté de droit de l'université de Sherbrooke. Il est diplômé, alors, au Québec, en France. Il est avocat, il est professeur, il est directeur d'un département tout entier, donc ici, à Sherbrooke, du programme. Et en plus, il a écrit des tas de livres, hein, beaucoup de livres. Et il est partie prenante dans tout le débat qu'il y a sur la laïcité, sur lequel il a écrit deux ouvrages, pas moins, qui ont été suffisamment importants pour influencer l'ensemble des débats. D'ailleurs, il y a des recours sur cette fameuse loi sur la laïcité et Guillaume Rousseau est encore impliqué là-dedans puisqu'il a pris même carrément une année sabbatique pour pouvoir écrire à propos de cette loi et participer à l'équipe qui va mener le combat auprès de la Cour suprême, si j'ai bien suivi.
Oui, si ça se rend, on attend toujours le jugement de la Cour d'appel. On s'attend à ce qu'il y ait un jugement de la Cour d'appel dans les prochaines semaines, effectivement, et qu'ensuite, ça se rende en Cour suprême. Et je pourrais travailler là-dessus avec Maître Luc Allary, qui est l'avocat de notre client, le Mouvement laïque québécois.
Alors, qu'est-ce que c'est que le Mouvement laïque québécois?
Donc, c'est un mouvement qui fait la promotion de la laïcité. Donc, c'est essentiellement des citoyens. À l'origine, c'était vraiment des parents d'enfants qui cherchaient l'exemption. Parce que jusque dans les années 70, au Québec, il y avait des cours de religion obligatoires. Mm-hmm. Il y avait parfois des exemptions, mais ce n'était pas toujours si évident. Donc, c'était un regroupement qui regroupait les parents qui souhaitaient avoir une exemption du cours de religion. Et là, à partir des années 80, à un moment donné, il y a eu un choix entre le cours de religion et de morale. Donc, ce qui a été une avancée pour la laïcité. Puis là, le regroupement des parents qui cherchaient des exemptions a élargi sa mission pour devenir plus largement un organisme de la société civile qui fait la promotion de la laïcité, donc qui incite l'État à adopter des politiques pour la laïcité. Et c'est un peu un des groupes là, qui a amené l'État québécois à se doter d'une loi sur la laïcité.
Alors, c'est quoi le problème avec cette loi? Pourquoi on va en Cour suprême?
Il n'y a pas de problème avec cette loi, donc il faudrait demander à ceux qui la contestent c'est quoi le problème, parce que pour ceux qui la défendent, il n'y a pas de problème. Mais donc en gros, Il y a plusieurs motifs de contestation. Il y en a qui prétendent que c'est une loi qui est de compétence fédérale, d'autres qui prétendent que c'est une loi qui porte atteinte à la liberté de religion. Bon, il y a toutes sortes d'arguments, mais les seuls arguments qui ont été retenus par le juge de première instance, donc par la Cour supérieure, c'est que, selon lui, le fait de obliger des représentants de l'État en autorité, les obliger à avoir le visage découvert dans le cadre de leur fonction, à ne pas porter de signes religieux dans certains cas, par exemple pour les enseignantes, ben ça porterait atteinte au droit des anglophones à une instruction dans leur langue. Ce qui est vraiment particulier, on en convient. Donc, l'idée, c'est de dire que le droit des anglophones à avoir accès à l'école anglaise au Québec, en fait, c'est un droit collectif pour la communauté anglophone de gérer leurs propres écoles et au besoin de gérer leurs propres écoles à l'abri des lois québécoises. Ce qui est évidemment très particulier et, à mon avis, erroné. C'est pourquoi on en appelle de cet aspect du jugement. Mais c'est donc le jugement rendu en première instance. Ça, puis l'autre aspect, c'est que selon lui, le juge de première instance, le fait de rendre la règle de l'interdiction du port de signes religieux, l'interdiction du visage couvert, d'appliquer cette règle-là aux députés, et dans le cas de l'interdiction du port de signes religieux au président, vice-président de l'Assemblée nationale, ben ce serait contraire au droit de se présenter aux élections, donc au droit à l'éligibilité. ce qui est encore là très particulier, surtout avec le privilège parlementaire, là, ça tient pas beaucoup la route, mais c'est ce qu'a décidé le juge. Donc voilà, c'est deux des problèmes avec la loi qu'on tente de faire corriger par la Cour d'appel.
Ce sera en contradiction avec la loi de 82, enfin la charte de 82?
Oui, exactement. Dans les deux cas, les arguments sont liés à la charte canadienne des droits qui fait partie de la loi constitutionnelle de 1982.
Est-ce qu'on peut considérer que l'anglais est un signe religieux?
L'anglais est un signe religieux. Non, c'est pas ça l'argument. L'argument, c'est vraiment dire que les anglophones au Québec auraient une culture différente qui serait plus tolérante, entre gros guillemets, envers le port de signes religieux dans les écoles et que par conséquent, leur imposer une vision de la laïcité québécoise inspirée un peu de la laïcité française, ce serait porter atteinte aux droits des anglophones de gérer leurs propres écoles.
En fait, on retrouvera un parallèle un peu du débat qu'il y a en Europe entre effectivement une Angleterre très libérale, si on peut dire, et une France beaucoup plus rigoureuse.
Oui, plus rigoureuse, plus républicaine, on pourrait dire. Donc effectivement, c'est assez proche, même si finalement le Québec est peut-être au niveau de son droit quelque part entre la France et la Grande-Bretagne ou les États-Unis ou le Canada. Là, où il y a, quoi qu'aux États-Unis, il y aurait des nuances à apporter, mais bref, le Québec est peut-être quelque part entre la France et d'un autre côté, le monde anglo-canadien, anglo-saxon. Mais bon, d'un point de vue canadien, effectivement, le Québec est plus proche de la France et le reste du Canada plus proche du Royaume-Uni, si on fait la comparaison avec l'Europe.
Qu'est-ce qui va se passer à la Cour suprême?
Donc, à la Cour suprême, ben c'est difficile à dire parce qu'on attend le jugement de la Cour d'appel. Donc, dans les prochaines semaines, donc c'était pratiquement il y a un an, jour pour jour. En fait, il y a 11 mois. C'était le procès et normalement, on s'attendait à un jugement. Normalement, ça aurait dû être dans les 6 mois, mais on comprend qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de points qui ont été plaidés, donc les juges prennent plus de temps. Donc, dans les prochaines semaines, il y aura le jugement. Puis là, à la lumière du jugement de la Cour d'appel,
on va
appeler. Mais je vous dirais que peu importe c'est quoi le jugement, tout l'ensemble du jugement va être porté en appel. C'est-à-dire que chaque point que le juge va donner raison à ceux qui contestent la loi, ben ceux qui défendent la loi, Mouvement laïque québécois, procureur général du Québec pour les droits des femmes, on va en appeler de tous les aspects du jugement qui vont considérer que la loi est invalide ou quoi. Et de l'autre côté, tous les aspects du jugement qui vont confirmer la validité de la loi seront portés en appel par ceux qui contestent la loi, donc les commissions scolaires anglophones, une dénommée AAC, le Conseil national des musulmans canadiens, l'organisation des Sikhs, etc., etc., etc. Là, il y a beaucoup de groupes qui contestent.
Si l'un ou l'autre gagne, qu'est-ce que ça change dans un cas comme dans l'autre?
Donc, c'est ça. Donc, ça se peut que ce soit la poire coupée en deux. Bon, ça peut être une possibilité. Ça se peut que ce soit, c'est ça. Tout peut arriver. Moi, je suis confiant qu'on va l'emporter parce que déjà, on l'a emporté dans une très large mesure en première instance. Puis les deux points sur lesquels on a perdu, on voit bien que le juge a fait des interprétations excessivement larges et déraisonnables des articles. Donc, on risque de l'emporter. Donc, si on l'emporte, l'effet que ça peut avoir, ça va faire en sorte que la loi sur la laïcité va être valide. Mais elle va être valide, entre autres, parce qu'il existe une disposition de souveraineté parlementaire dans la loi. C'est-à-dire que le législateur a utilisé l'article 33 de la Charte canadienne, 52 de la Charte québécoise, qui permet de protéger la loi contre un contrôle de constitutionnalité fondé sur certains articles des chartes des droits. Et là, ce qui va arriver, c'est que les perdants, après le jugement de la Cour suprême, qui va dire « la loi est valide », mais la Cour suprême dirait « la loi est valide », mais on vous dit pas qu'est-ce qui adviendrait s'il n'y avait pas de disposition de souveraineté parlementaire, ce qu'on appelait autrefois une clause dérogatoire. Donc là, les opposants vont commencer un lobbying auprès des partis politiques de la scène québécoise pour que soit enlevée la disposition de souveraineté parlementaire pour qu'ensuite ils puissent retourner contester la loi. Donc, parce qu'en plus, ça doit être renouvelé aux 5 ans, quoique ça risque d'être renouvelé là, dès 2024, donc peut-être avant le jugement de la Cour suprême. Mais bref, c'est ça. Donc, eux vont faire du lobbying politique pour tenter de contester à nouveau par la suite. Et au contraire, si c'est les partisans de la laïcité qui perdent, à ce moment-là, il y aurait possiblement une crise constitutionnelle. Donc, on risque de voir à ce moment-là, faudra voir la réaction du gouvernement du Québec, mais si c'est toujours le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, on pourrait les voir, lancer une vaste consultation sur la modification de la Constitution canadienne pour qu'elle soit modifiée de manière à permettre la loi sur la laïcité. Est-ce qu'il y aurait une montée du sentiment souverainiste? Est-ce que ça l'aiderait le Parti québécois, peut-être à la veille de l'élection de 2026, si la loi était cassée? Ça, c'est des choses qui sont possibles et qui seront à voir en temps et lieu.
D'accord. Donc, c'est encore bien à suivre. Hein, ouais. Donc, on suivra l'actualité. Comment vous vous êtes retrouvé impliqué là-dedans?
Très bonne question. Donc, ça fait. Moi, j'ai fait mon bac ici à Sherbrooke en droit. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en droit de la personne et diversité culturelle à McGill. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur les questions de laïcité dans mon mémoire de maîtrise. Ensuite, j'ai fait doctorat sur d'autres questions. Quand je suis devenu professeur, ben là, je suis devenu mon prof ici 2012. Et pas longtemps après, presque en même temps, il y a eu le dépôt de la Charte des valeurs du Parti québécois, qui était comme un petit peu l'ancêtre de la loi sur la laïcité, qui n'a pas été adoptée, mais qui a été déposée sous forme de projet de loi, qui a été débattue. Donc, à ce moment-là, c'est redevenu une question très d'actualité, notamment les aspects juridiques. Donc, j'ai été appelé à ce moment-là à publier là-dessus. Puis ensuite, quand le projet de loi comme tel, loi 21, a été déposé puis adopté, ben là, j'ai été conseillé auprès du gouvernement pour élaborer la loi, pour la faire adopter. Puis une de mes fonctions, c'était d'entretenir les relations avec les groupes favorables à la loi.
Donc, je pouvais parler. Vraiment.
Ouais. Donc, j'étais conseiller du gouvernement, donc à la fois sur le plan juridique et sur le plan politique. Ben là, je pouvais parler un jour au mouvement laïque, le lendemain au Rassemblement pour la laïcité, etc., à des groupes féministes favorables à la loi. Donc, j'essayais de voir un peu les modifications parce qu'évidemment, les groupes favorables à la laïcité voulaient que la loi aille encore plus loin. Bon, le gouvernement voulait pas nécessairement aller beaucoup plus loin, mais peut-être un peu. Donc, l'idée, c'était de reprendre certaines idées des groupes favorables à la laïcité pour que ça devienne des amendements, donc voir comment leur idée politique pouvait se traduire juridiquement, voir si politiquement, avec le caucus, conseil des ministres, c'était possible, et ensuite faire en sorte qu'il y ait une modification. Puis comme de fait, il y a eu une modification là importante qui est venue consacrer dans la loi sur la laïcité un droit à des services publics laïques. Donc ça, c'est un amendement qu'on a apporté avec quelques autres. L'idée, c'était qu'à la fin, même si le projet de loi, la loi finalement adoptée, allait pas aussi loin que ce que souhaitaient les groupes de défense de la laïcité, ben qu'ils soient quand même contents. Parce que le pire des scénarios, ça aurait été d'adopter une loi. Les groupes pour la laïcité auraient dit « c'est pas suffisant, c'est cosmétique, ça vaut rien ». Et les groupes anti-laïcité auraient dit « c'est islamophobe, c'est discriminatoire, c'est l'enfer ». Donc là, ça aurait été perdant-perdant pour le gouvernement. Donc l'idée, le gouvernement voulait un compromis, il voulait pas aller trop loin, mais il voulait quand même avoir l'appui des groupes pour la laïcité. Puis on a réussi cette opération-là. Bon, ce qui a fait en sorte que je me suis fait connaître par différents groupes de défense de la laïcité, dont le mouvement laïque québécois, ce qui fait que dès le lendemain de l'adoption de la loi, puis moi j'ai quitté, là, j'ai une carrière de prof et non pas de conseiller politique, donc j'ai fait ça pendant 3 mois, puis j'ai quitté. Et donc à ce moment-là, je suis redevenu professeur, avocat, et là le mouvement laïque québécois, parce que dès le lendemain, dès le soir même de l'adoption de la loi, il y a des contestations qui ont débuté, et donc... le mouvement laïque québécois est rapidement intervenu pour défendre la loi. Et là, il y avait Maître Luc Allary, qui est un avocat qui a plus de 50 ans d'expérience au barreau, qui est très, très bon, qui a obtenu un jugement très, très important là, dans l'arrêt mouvement laïque contre Saguenay. Mais il souhaitait avoir un junior. Là. C'est drôle à dire à mon âge, là, mais c'est un petit peu ça le concept. Donc, un autre avocat plus jeune pour être deux, parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot.
Ouais,
c'est comme ça que je suis devenu un des deux avocats du mouvement laïque québécois dans la cause de la loi 21.
Donc, du coup, vous étiez dedans, là, c'était fini, dedans jusqu'au cou.
Voilà, effectivement. Donc, en fait, ça fonctionne par période. Donc, quand le jugement sort, ben là, on fait une conférence de presse et tout, on lit le jugement, on commente ça dans les médias. Là, rapidement, on prépare nos arguments, on veut intervenir. Là, après ça, il peut y avoir une petite période d'accalmie, mais pas longtemps après, là, faut produire les mémoires, etc., on dépose ça, hop. Là, après ça, on attend le procès, il y a une autre période d'accalmie. Là, on se prépare intensément des jours et des jours avant le procès. Là, c'est très, très intense, le procès qui dure des semaines. Puis après ça, on attend pendant 11 mois, puis il se passe plus rien. Donc, c'est intense, mais par bout, puis il y a des bouts où c'est moins intense.
Logique. Alors, on va écouter une chanson, justement, qui s'appelle « Hymne à Québec ». C'est une des chansons que vous avez choisies de
Loco-Locas.
Loco-Locas, pardon, désolé. Je ne sais pas si m'entends à la radio. Bon, bref. Donc, cette chanson. Et on va parler justement du Québec juste après cette très belle chanson que vous avez choisie.
Mortifié, reconstruit, incendié, garde-moi par année dans les glaces, brisé, protégé. le pied dans le cap, Québec est toute sauf plate. Carnaval, festival, fête nationale, hiver comme été, les nuits sont malades mentales. La base c'est la haute ville, c'est la mort des automobiles. Pour mort dans cette ville, faut rester mobile. 30 escaliers déclinent ces deux réalités.
Alors, l'hymne au Québec, il n'existe pas en fait véritablement d'hymne québécois?
Informellement, c'est Jean du pays de Gilles Vigneault.
D'accord, d'accord.
Mais... Sinon, il y a eu quelques tentatives plus ou moins réussies, mais effectivement, il n'y a pas d'hymne officiel, comme par exemple la Marseillaise en France, qui est mentionnée dans la Constitution. Il n'y a pas de doute, mais au Québec, effectivement, ça devrait quelque chose qui devrait être fait. Si jamais il y avait une Constitution québécoise, je pense que ça aurait sa place là, d'en profiter pour consacrer. Probablement Jean du pays. Bon, avec la mention pays, ça fait un peu souverainisme, mais je pense que les gens comprendraient que c'est poétique puis que ça a toute sa place puis qu'il n'y aurait pas de meilleur chant, à mon avis, d'hymne national pour le Québec. Alors que l'hymne loco-local, c'est l'hymne à Québec. Donc, c'est pour la ville de Québec.
Oui, c'est ce que j'avais
Québec.
Pu comprendre. Voilà. Oui, tout à fait. Le Québec, c'est quoi, juste, en fait? C'est juste une province? C'est une province à part? Il y a vraiment quelque chose de différent entre le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique, d'autres. En dehors du français, de la langue, finalement, on vit quand même plutôt un peu à l'américaine ici, finalement, comme en Ontario ou dans le Massachusetts ou le Maine voisin. À part la langue, qu'est-ce qui fait que le Québec serait à part?
Ben, en fait, je pense que René Lévesque disait, tout nous ramène à la langue, puis je me souviens pas des mots exacts, mais je pense que ce qu'il disait, c'est que la langue conditionne tout. Donc, quand on dit à part la langue, mais en fait, la langue, c'est tout le reste. Donc, je pense qu'à partir du moment où on n'a pas une vision instrumentale de la langue, de dire, ben voilà, c'est juste un outil de communication comme un autre. Non, la langue, c'est un véhicule culturel. Voilà, c'est la suite de l'aventure française en Amérique. C'est une culture québécoise de langue française, etc. Donc, c'est tout ça. Puis tout le reste se rattache à ça. Je pense que c'était ça le point de René Lévesque, c'est-à-dire il y a la langue française, puis là, tout le reste suit. Donc, pourquoi au Québec, on a peut-être plus de politique sociale qu'ailleurs? Ben justement, parce qu'on s'inspire de la France, parce que historiquement on a été marqué par l'Église catholique, parce que, bon, avec la conquête, on a perdu nos élites, donc tout le monde était moins fortuné, ce qui fait qu'on s'est rallié autour de l'Église, puis ensuite autour de l'État. Donc, tout tout nous ramène à la langue, puis tout découle de la langue. La laïcité, même chose. Donc voilà, donc je pense que c'est tout ça. Donc c'est la langue et tout ce qui vient avec. C'est quoi, c'est Malraux qui disait une civilisation, c'est une religion et tout ce qui s'agrège. Donc moi, j'aurais tendance à dire une nation, c'est une langue et tout ce qui s'agrège autour. Donc dans le cas du Québec, c'est la culture, l'histoire, les valeurs comme la laïcité.
Quand François Legault a évoqué un peu justement ses racines un peu catholiques du Québec, ça a fait une polémique, mais au fond, il y avait une part de vérité ou pas?
Oui, je pense que oui. Je pense que la polémique, c'est sur le fait que, bon, est-ce qu'un premier ministre en exercice doit s'exprimer sur des questions de religion, considérant qu'il dirige un État laïque, en plus, dirige le gouvernement qui avait fait adopter la loi sur la laïcité. Donc, il y avait cette question-là, mais sur le fond, ce qu'il disait n'était pas... était pas fou. Donc, de dire qu'il y a une solidarité particulièrement forte au Québec, et comme ce qui différencie le Québec des autres provinces, outre la langue, c'est évidemment le passé catholique, puis qu'il y a pu avoir un lien. Mais d'ailleurs, il reprenait une thèse de Mathieu Bock-Côté, donc le sociologue bien connu, qui lui-même s'inspirait de Max Weber, donc c'était pas particulièrement original. Donc, oui. L'idée, c'est de dire que la religion, c'est pas seulement des rites, c'est pas seulement la liturgie, c'est aussi, ça, sur l'histoire longue, ça a un impact, puis même, à la limite, une foi disparue, je pense que c'est Renan qui disait, la foi, ceci de particulier, que disparue, elle continue d'agir. Je pense que c'est vrai plus largement pour la religion. Donc, elle a à peu près disparu au Québec. La religion catholique, en tout cas, comme grande religion de la société, mais elle continue d'agir. C'est-à-dire qu'historiquement, il y a eu des choses qui ont été mises en place, des coopératives, etc., qui ont été créées à l'époque de l'Église catholique, des jardins, etc. Nos syndicats, c'est tous des anciens syndicats catholiques, les unions de producteurs agricoles, etc. Donc, il reste quelque chose de cela. Voilà, je pense, le sens du premier ministre qui avait relayé là, une publication de Mathieu Bock-Côté.
Est-ce que la laïcité doit forcément se poser d'une certaine manière ou d'une autre contre les religions? On le voit en France actuellement, bon, la sécularisation était très loin en France, mais là maintenant on en arrive même à retirer les croix sur les places publiques, les statues de vierges, etc. On interdit même les crèches dans certaines villes, etc. Est-ce que ça va pas trop loin?
Ben, en fait, c'est ça. Donc, faut faire la distinction entre laïcité puis sécularisation. Donc, laïcité, c'est vraiment la séparation de l'État et des religions, neutralité religieuse de l'État, égalité des citoyens, liberté de religion. La sécularisation, c'est beaucoup... Donc, la laïcité, c'est juridique, c'est politique. Mm-hmm. La sécularisation, les sécularistes, c'est beaucoup plus sociologique. Donc, c'est les gens arrêtent d'aller à la messe le dimanche, par exemple au Québec, mm-hmm. dans les années 60. On peut ne pas séparer État et religion, puis les gens cessent d'aller à la messe, comme au contraire, on peut séparer État et religion et les gens vont plus à la messe. Donc c'est deux choses distinctes. Donc, au Québec, bon, les deux ont coïncidé, mais conceptuellement, ça peut être différent. Maintenant, est-ce que ça va trop loin, la laïcité? J'ai pas l'impression. Vous savez, au Québec, on a enlevé, par exemple, la croix qui était dans l'Assemblée nationale. Donc, on a interprété ça comme une espèce de symbole inapproprié d'une autre époque où il pouvait y avoir des liens entre l'État et la religion catholique, christianiste de manière générale. Mais je pense que la loi, par exemple, va pas dire que retirer tous les croix des écoles, par exemple, que dans les cas où ce serait incrusté. Donc, il y a une espèce de clause de droits acquis qui est vraie aussi pour les signes religieux d'une autre manière, mais peut-être pour les signes, on dit pas, voilà, on a une loi sur la laïcité, il faut arracher tous les croix des écoles. Non. Ce qu'on dit, c'est qu'il peuvent être enlevés, mais que c'est pas que c'est pas obligatoire. Donc, je pense qu'au Québec, on a trouvé une espèce d'équilibre. Entre laïcité, puis en même temps, on veut pas détruire le patrimoine. Surtout qu'au Québec, on n'a pas de château, hein. Donc, à part le château Frontenac. Donc, ce qu'on a, c'est des églises. Donc, à un moment donné, il faut pas virer fou, comme on dit, là.
D'accord. Pourquoi cet attachement comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes personnellement autant impliqué comme ça dans ce combat pour le Québec? Qu'est-ce que ça représente pour vous personnellement, en tant que personne?
Ouais, ben, comme c'est souvent le cas pour les valeurs, les idéaux politiques, ça vient de ma famille. Donc, moi, mon père était au Parti québécois. Je raconte toujours que j'ai fait du porte-à-porte au référendum de 1980, ce que tout le monde trouve un petit peu bizarre parce que, manifestement, je devais être très jeune en 1980.
A priori.
Et la vérité, c'est que j'étais dans le ventre de ma mère. Donc, en mai 80, je suis né en septembre 80, donc en mai 80, au moment du référendum, j'étais dans le ventre de ma mère qui faisait du porte-à-porte pour le oui. Donc, voilà. Donc, ça vient de là. Mon grand-père qui était à l'Union nationale et tout. Donc, à la base, ça vient de là. Puis ensuite, ben c'est ça. Moi, j'ai l'impression que dans un monde matérialiste et tout, puis évidemment, c'est important d'avoir des belles conditions de vie et tout, mais c'est pas ça qui donne un sens à la vie. Puis j'ai l'impression que justement, dans un monde où il y a moins de religion, ce qui peut donner un sens, il y a toutes sortes de choses, il y a toutes sortes d'aventures collectives qui peuvent donner un sens à la vie d'un individu, mais je pense qu'un projet national, ça peut être une façon de participer à quelque chose de plus grand que soi puis de donner un sens à sa vie.
On me disait il y a deux, trois semaines, on me disait « t'as de la chance parce que tu serais arrivé il y a 10 ans, oh, t'aurais été très déçu parce qu'il y avait une espèce de plaine morne, il y avait une espèce d'affaiblissement général par rapport à ces questions. » Et que depuis quelques années, au contraire, on assiste à un sursaut, justement, à un réveil un peu du sentiment national québécois. Qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, si on voulait être précis, je vous dirais qu'il y a 10 ans, ça a recommencé avec le projet de Charte des valeurs du Parti québécois. Puis il y en a qui étaient contre, il y en a qui étaient pour. Là, je vous dis pas que c'était parfait, mais en tout cas, du point de vue, puis encore là, il y a différentes interprétations. Il y en a qui pensent que ça nuit aux nationalistes, d'autres pensent que ça l'aide. Moi, je pense que ça l'aide. Je pense que ça a été un moment de réveil pour le mouvement nationaliste québécois. Donc voilà, donc vous avez raison. Mais si vous étiez arrivé il y a 10 ans... C'était à peu près le moment du débat sur la Charte des valeurs, vous auriez été correct. Mais effectivement, si vous étiez arrivé, disons, il y a 12-13 ans, là, puis il y a le printemps arabe qui est arrivé en 2012, qui est une période d'effervescence aussi, mais moins sur la question nationale, quoi, qui n'était pas complètement absente. Mais donc avant ça, là, donc je vous dirais qu'entre 2003 puis 2011, là, effectivement, on a vécu au Québec une période, je dirais pas, des fois on réfère aux années 50 au Québec comme la grande noirceur. Là, peut-être que le début des années 2000, c'était la petite noirceur.
Ouais.
Donc c'était moins, effectivement... surtout à égard à la question nationale. Quoique, rapidement, il y a quand même eu certains débats sur les accommodements religieux, mais ça restait... Surtout 1900, je dirais 96-2005, il y a eu une période, effectivement, là, de moins grande effervescence.
Oui, à cause probablement de la défaite du référendum de 95.
Exactement, exactement.
Ça a mis un coup derrière la tête, quoi.
Voilà.
Est-ce qu'il y a une nouvelle génération, justement, vous l'incarnez d'ailleurs, vous faites partie de ceux qui l'incarnent, cette nouvelle génération justement de militants pour le Québec, etc. C'est un peu comme la nouvelle scène avec ces jeunes chanteurs comme Marianne Bruno, etc. qui émergent aussi. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a, enfin moi qui viens de France, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui bouge là, qui se passe.
Ouais.
Comment vous voyez l'avenir?
Donc, moi, je vois ça plutôt de manière positive. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un réveil au Québec du mouvement national, du mouvement d'émancipation et tout. Et alors, il y a eu l'élection de la coalition Avenir Québec avec un agenda non seulement autonomiste, nationaliste, mais moi, que je qualifie plus particulièrement d'unilatéralisme là, en termes de stratégie constitutionnelle. Mmh. Donc, vraiment, un gouvernement qui dit « on va arrêter de demander... » au Canada, plus de pouvoir, plus d'autonomie. On va faire des gestes qui agrandissent la part d'autonomie du Québec, disposition de souveraineté parlementaire, modification unilatérale de la Constitution canadienne, etc. Et ça, je pense que ça a été intéressant, puis il y a eu vraiment des gains. La loi 21, on en parlait, la loi 96 sur la langue et tout. Là, il y aurait peut-être d'autres gestes à poser, une Constitution québécoise, etc., une nouvelle loi sur la drapeau, l'hymne national et tout. Il y aurait d'autres choses à faire, mais disons, il y a une partie du travail qui a été faite, il y a une autre partie qui pourrait être faite. Puis en parallèle à ça, ça alimente, ça semble, en tout cas, je pense qu'il y a peut-être une relation de cause à effet, ça alimente le mouvement souverainiste. Parce qu'avant, quand les souverainistes, on disait, il y avait une formule qui disait, je sais pas si elle était de Boc-Côté, mais il y a une formule qui disait, la souveraineté, c'est la bonne réponse à une question que les gens ne se posent plus. mais à partir du moment où il y a un parti nationaliste qui pose des gestes, qui est en tension avec le Canada anglais, ben là, il repose la question nationale, même si c'est d'un point de vue non souverainiste. Puis là, ben oups, la souveraineté redevient une question, une réponse pertinente à une question que les gens se posent à nouveau. Fait que c'est ça qui est en train de se passer, puis c'est intéressant.
Face à la mondialisation, est-ce qu'on a besoin de retrouver un chez-soi, justement?
Voilà, exactement. Je pense que... Mais ça, remarquez, ça, cet argument-là, on le faisait fin des années 90-2000, on le faisait, l'argument de la mondialisation, puis on disait que ça pognait moins. Là, il y a tout. Je pense que là aussi, la mondialisation... ça se traduit concrètement. Avant, c'était, on pensait beaucoup au traité de libre-échange et tout, puis on disait c'est bon pour le Québec parce que là, on ne dépend plus de l'économie canadienne. On est dans l'Amérique, exactement, dans le libre-échange nord-américain. Donc ça, cet argument-là a été fait par Parizeau-Landry, par d'autres. Je pense que ça a pu faire un certain nombre de gains, ça a pu sécuriser certains électeurs, mais peut-être pas au point de faire vraiment une grosse différence. Et là, il y a la dynamique de la mondialisation, c'est beaucoup une dynamique d'immigration. Donc, c'est beaucoup ça concrètement, l'effet de la mondialisation dans la vie de tous les jours. Et là, il y a quelque, je pense que le mouvement souverainiste et les mouvements nationalistes plus largement ont quelque chose à dire là-dessus. L'importance pour le Québec là, de contrôler sa politique d'immigration. Donc, ça aussi, je pense que ça peut redonner de la pertinence au projet souverainiste, même si forcément c'est un peu controversé. Si on dit on veut reprendre le contrôle sur l'immigration, mais là, tout de suite, on va vous dire donc vous voulez moins d'immigrants, donc vous êtes une bande de racistes et de xénophobes, qu'une accusation qui a souvent été faite à l'encontre des souverainistes. Donc, c'est délicat, mais je pense que ça démontre la pertinence là, du projet souverainiste.
L'anglais qui bouscule le français aussi.
Aussi, l'anglicisation qui va avec l'immigration. C'est pas le seul facteur, mais ça en est un. Donc, effectivement, l'anglicisation qui va avec la mondialisation, le libre-échange, l'interconnexion, les réseaux sociaux ou Netflix, etc., tout ça, toutes les différentes mondialisations sous toutes ses formes favorisent l'anglicisation et donc ça remet à l'ordre du jour l'importance d'avoir un État-nation québécois libre en mesure de favoriser l'épanouissement de la langue française et du peuple qui la parle.
C'est vrai que j'ai été surpris, effectivement, quand je suis arrivé à Montréal, c'est la première fois que je venais à Montréal, j'ai parlé plus anglais que français.
Voilà.
C'est un peu surprenant, ça m'a surpris. Et comme j'avais les abonnements Amazon Prime, tout ça, bon, je les ai basculés au Canada. Et en fait, je me suis aperçu que la plupart des films sont en anglais, et voilà, même pas traduits en français, en fait.
Non, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail à faire là, pour la promotion de la langue française. La loi 96 en a fait un bout. Là, on attend un plan d'action pour la langue française. Mais ouais, effectivement, il y a du travail à faire.
Ginette Renaud. Immense chanteuse, c'est la Céline Dion.
C'est avant d'avant. Céline Dion, ouais. Voilà. Moins vedette internationale, mais avec un talent
avec le
incroyable.
Même poids au niveau.
Au niveau du talent, là. Puis c'est d'ailleurs, c'était René Angélil qui a été manager de Mme Renaud avant de l'être de Mme Dion. Puis voilà, en termes de voix, c'est incroyable. Si jamais vous avez le temps, vous irez voir sur YouTube. Ils ont déjà chanté ensemble cette chanson-là, vous avez vu?
C'est incroyable. J'ai vu effectivement.
Lors d'une fête nationale, d'ailleurs. J'ai
trouvé que c'était assez remarquable. J'ai découvert cette chanteuse d'ailleurs, beaucoup de ses chansons. J'ai été impressionné par cette personne. Ça a l'air d'être vraiment quelqu'un de tout à fait remarquable. C'est une très belle chanson qu'on va écouter maintenant et que vous avez choisie. Et qui va partir dans quelques secondes. Est-elle partie ?
Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Car de mon bras me tient ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je peux aller encore plus loin. Laisse mon bras me tient ma main. Je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut. Une tempête et un ruisseau. Prends garde, je laisse ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas. Encore un saut et je suis là. Là aussi, je ne tombe pas. Plus loin, je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter, comment descendre sans tomber. Un peu plus haut, un peu plus fort. Encore un saut, essaye encore. Je voudrais te tendre les bras. Je suis trop haut, tu es trop bas.
c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment une chanson magnifique. C'est vraiment une chanteuse. On en parlait un petit peu hors antenne.
Ben ouais.
Mais elle a renoncé à une carrière internationale.
Oui, je connais pas le détail de l'histoire, là, mais c'est ça. Donc, elle avait le même manager que Céline Dion, donc Renée Angélil. Puis, à un moment donné, elle a fait des choix qui ont fait en sorte qu'elle n'a pas eu une grande carrière internationale, alors que Céline Dion l'a eu. Alors, parfois, on oppose le destin de Ginette Renault à celui de Céline Dion.
Ouais, mais c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un d'impressionnant. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette chanson? Pourquoi celle-ci en particulier, Ginette?
Bon, d'abord, en raison de la voix. Donc, assez simplement, en raison de la voix. Des paroles aussi, qui sont de Jean-Pierre Ferland, mais aussi parce qu'encore là, il y a un lien avec la politique. Donc, si je ne me trompe pas, c'était à la Saint-Jean, comme on disait à l'époque, donc à la Fête nationale du Québec, à Montréal. Je pense que c'était en 75, mais c'était peut-être en 76. Donc, Ginette Renault fait cette interprétation. Je pense que la vidéo est disponible, là aussi, sur YouTube. Et voilà, là, donc, son interprétation est incroyablement réussie. Et à ce moment-là, la chanson est interprétée comme si elle parle du Québec. Mm-hmm. Comme si on peut aller un petit peu plus loin, on peut aller un petit peu plus haut, donc vers l'indépendance. Alors que, bon, il y a plusieurs façons d'interpréter cette chanson-là. C'est pas la seule interprétation possible. Et je me souviens pas avoir entendu Jean-Pierre Ferland dire que c'est ce qu'il avait en tête quand il l'a composé, ou dire le contraire, là, je l'ignore. Mais bref, ça me semble être une interprétation de la chanson et non pas son seul sens possible. Alors, voilà. Donc, ça, dans le contexte du milieu des années 70, ça annonçait la prise du pouvoir par le Parti québécois et tout. Donc, c'est aussi une chanson qui a un sens politique.
Toute œuvre est vouée, une fois prise par le public, à être interprétée. De toute façon, elle n'appartient plus tout à fait à l'artiste lui-même.
Voilà.
D'ailleurs, est-ce que l'artiste s'appartient encore lui-même quand le public se l'accapare?
Voilà.
On peut s'interroger quand on voit certains artistes, effectivement. Mais c'est vrai que c'est une voix tout à fait impressionnante. Votre enfance, vous étiez déjà passionné par la politique? Vous intéressiez déjà à ça?
Oui, assez rapidement. Je me souviens, une élection, je pense que ça devait être en 88. Donc, j'avais 8 ans. Donc, Paul Gervais avait été élu ici dans Sherbrooke et mon père m'avait amené. Puis, j'avais aimé le côté social. Donc, au-delà, surtout municipal, c'est pas très idéologique. Là, quoique, à l'époque, il y avait déjà un candidat un petit peu plus associé au Parti québécois, un autre plus associé au Parti libéral. Mais c'est pas comme en France ici. Donc, on n'a pas les partis politiques nationaux avec des structures municipales. Donc, au municipal, c'est des coalitions. Mais parfois, il y a petite teinte politique là, liée à la scène politique québécoise. Mais bref, au-delà des teintes politiques, ce qui m'avait intéressé, c'était le fait de se lever le matin pour faire du café, aller poser les pancartes et tout. Donc, voilà. Donc, j'ai eu la piqûre là. Puis ensuite, bon, ben, c'était les années 80, fin des années 80, début 90. Donc, l'effervescence autour des référendums, parce qu'il y a eu celui de Charlottetown sur une entente constitutionnelle en 92. Ensuite, celui sur la souveraineté partenariat de 95. Donc, j'étais dans un contexte là, qui faisait qu'on pouvait assez tôt s'intéresser à la politique. Et c'était peut-être plus intéressant à cette époque-là qu'un peu après, à la fin des années 90.
Ça a conditionné vos choix pour les études de droit?
Tout à fait. Donc, c'était dans le but de, effectivement, pouvoir contribuer à éventuellement peut-être faire de la politique là, que j'ai choisi le droit. Je pense que c'était... voilà, j'étais jeune à l'époque, donc je me souviens qu'avoir lu une biographie de Fidel Castro où on disait qu'il avait été avocat avant de faire de la politique. Donc, c'est, je pense, parmi différentes biographies d'hommes politiques que j'avais lues, là, il y avait celle de Castro, puis voilà. Donc, ça c'est là peut-être que j'ai eu l'idée, parce que sinon, il n'y a pas tant d'avocats dans ma famille. Donc, c'était voilà, c'est une façon de me préparer pour la politique.
Au fond, vous l'avez préparé aussi quand vous avez fait SDVSS, de droit politique appliqué à l'État. Parlez-nous-en un peu, parce que c'est une filière nouvelle, c'est sa deuxième année. C'est une filière déjà considérée comme une filière d'élite. Qu'est-ce que c'est que cette filière, au juste?
Donc, tout part que... donc, depuis que je suis prof d'université, donc depuis une dizaine d'années, souvent, je reçois des appels, soit de Québec, soit d'Ottawa, donc des capitales québécoises ou fédérales. Et souvent, on me demande des CV, que ce soit pour la fonction publique ou des postes politiques. On me demande des CV de gens qui ont soit une formation politique, mais aussi des connaissances en droit, ou une formation juridique, mais un sens politique. Donc, on cherche justement des gens formés en droit et en politique, soit par leurs études, soit par une combinaison d'études et d'expériences. Donc, voilà, il n'y en a pas des tonnes. Il existe ici un bac en études politiques appliquées avec cheminement en droit. Donc, il y a déjà, mais c'est un petit bassin, d'une part. Puis d'autre part, ben de plus en plus, ce qui est valorisé, c'est le deuxième cycle. Donc, je savais qu'il y avait un besoin sur le marché pour ce type de profil-là. Ensuite, mon action politique m'a amené à réaliser qu'il existe des juristes de l'État, donc tout un corps d'avocats et de notaires qui travaillent pour l'État québécois, c'est vrai aussi pour l'État fédéral, et qui donc sont à la base des avocats, des notaires, donc d'abord de formation juridique, mais qui ont à travailler avec le politique et pour qui c'est avantageux d'avoir des connaissances en sciences politiques ou de l'expérience politique. Alors, tout ça mis ensemble a fait réaliser qu'il y avait un besoin sur le marché du travail pour des diplômés en droit et politique et que j'avais peut-être moi le profil pour justement faire ce lien-là entre ce qu'on pouvait créer sur le terrain et ce qu'il pouvait avoir comme besoin sur le marché du travail.
Comment ça s'est passé, ce lancement? Comment s'est passé de préparer tout ça? Ça n'a pas dû être simple de mettre ça en place, filière universitaire à part entière?
C'était en pleine pandémie, déjà.
En plus.
Donc, puis d'ailleurs, c'est pendant la pandémie, c'est que moi, j'étais vice-doyen, donc je devais un peu aider tous les programmes de cycle supérieur de la faculté de droit, puis on en a beaucoup. Fait que là, je rencontrais, je pouvais avoir un Teams à chaque demi-heure avec chacun des directeurs de programmes. Donc là, ça m'a comme donné une vue d'ensemble de tous les programmes qu'on avait à la faculté de droit. Par exemple, un programme de droit et politique internationale, un programme de droit pénal. Puis là, je réalisais qu'on avait vraiment beaucoup de choses, droit de la santé, notariat, etc., etc.
Ouais, forcément, ouais.
Mais le créneau qui me semblait pas occupé par la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, mais par aucune autre, c'était celui du droit politique de l'État, droit et politique de l'État, donc l'équivalent qui existait déjà en droit international, mais pour le droit national, donc québécois-canadien. Et c'est ça. Donc, je suis parti de là. Puis ensuite, une fois que le doyen dit qu'on peut y aller, ben là, je me suis tapé la littérature, voir qu'est-ce qui existait ailleurs, voir pédagogiquement c'est quoi les grandes tendances, etc., en termes de simulation et tout. Je me suis adjoint une collègue de l'École de politique appliquée, Catherine Côté. Puis ensuite, j'ai parlé à des collègues dans les cabinets d'avocats, dans des cabinets de ministres, dans des postes de fonctionnaires, voir leurs besoins.
Oui,
oui. Puis rapidement, comme ça, puis des collègues profs et tout. Puis rapidement, puis ensuite, on a parlé à des étudiants, on a mis des étudiants dans le cours, on les a crédités pour qu'elles nous aident à faire des recherches. Donc, rapidement, l'équipe s'est mise sur pied, puis on a pu monter les documents très rapidement. Je dirais qu'en un an et demi, c'était booké, ce qui est rapide, là, honnêtement. Là, habituellement, c'est plus long que ça avec la bureaucratie universitaire, l'assemblée de profs, le conseil des études,
ouais,
le conseil
rapide,
universitaire, ouais, etc., etc. Mais donc, moi, finalement, en un été, j'avais réglé pas mal toutes les bases un peu théoriques et tout. Ensuite, fallait l'étude de marché, etc., donc quelques autres mois. Puis c'est ça. Donc, en un an et demi, c'était bouclé. Puis après ça, c'était de le recrutement puis de lancer la première année. Donc là, ça a été d'autres défis, là. Mais la création comme telle, ça s'est fait relativement rapidement puis ça a bien été.
Alors, c'est unique en plus. Il n'y a que l'Université de Sherbrooke dans tout le Canada, d'ailleurs.
Effectivement, à ma connaissance. On avait regardé, des fois, il pouvait exister droit et philo-politique. Il pouvait exister certaines choses. Des études législatives à Ottawa. Donc, surtout en droit un peu de Sciences Po. Donc, il y avait des choses qui ressemblaient, mais rien qui répond exactement aux besoins qu'on cherche de formation bidisciplinaire, interdisciplinaire même. Donc ça, effectivement, ça n'existait pas. Certainement pas en français au Canada, puis en anglais non plus, de mémoire. Il y avait des choses qui pouvaient ressembler en anglais, mais rien de vraiment comme ce que l'on propose.
Qu'est-ce que vous diriez à un jeune étudiant qui rentre en première année de droit aujourd'hui pour qui s'intéresse à cette filière?
Je vous dirais que s'il y a un intérêt pour la politique, vraiment, c'est fait pour lui parce que puis ça prépare vraiment très, très bien au marché du travail parce que toute la première session, en fait, on prépare, donc il y a des cours élaboration de politique publique, rédaction législative, donc on apprend à l'étudiant à rédiger des lois, ce qui se fait à peu près pas au bac. Il y a un cours optionnel en troisième année, mais qui n'est pas toujours donné et tout, donc on apprend beaucoup de choses au bac, c'est un très bon programme, mais on n'apprend pas à rédiger des lois. Donc là, vous apprenez à rédiger des lois. Ensuite, vous faites une simulation de rédaction d'une loi, simulation parlementaire, adoption d'une loi, et lors de la deuxième session, on vous prépare ensuite avec des cours sur le judiciaire et le politique et tout, preuves, procédures, et là, on vous prépare un procès simulé où la loi que vous avez élaborée à la première session sera contestée à la deuxième session, sera défendue. Donc, autrement dit, si vous êtes un juriste, un étudiant en droit qui a un peu d'intérêt pour la politique, ben là, ça vous ouvre les deux voies, même les trois. Donc, le conseil politique comme tel, que ce soit pour le gouvernement, pour l'opposition, pour des groupes de pression, la rédaction de loi, qui se fait beaucoup du côté du gouvernement, mais aussi dans des municipalités ou quoi. Puis ensuite, tout le volet contestation ou défense de la loi, qui là aussi se fait pour des groupes de pression, des clients ou pour l'État. Donc, c'est vraiment les trois façons de pratiquer en droit, mais dans un contexte où on est proche ou dans la politique. Donc, soit du conseil, de la rédaction législative ou du litige comme tel. Alors, en 8 mois, vous avez tout ça. Puis ensuite, on vous donne, le taux de placement là, est de 100%, on vous donne accès à un stage payant dans votre domaine. Donc, on a des étudiants l'an passé qui travaillent au ministère d'Éducation, au cabinet du premier ministre. On en a une au cabinet de la mairesse de Sherbrooke. Donc, selon que les gens veulent être à Québec, Montréal ou Ottawa, on leur trouve un super stage, leader du gouvernement, etc., etc. Donc, tous nos étudiants ont eu des super stages. Fait que ça aussi, je le dirais à un étudiant de première année, là, ce qui n'est pas toujours évident. Puis souvent, quand on pense de stage, on pense à des cabinets d'avocats privés, il faut facturer des heures ou quoi. Alors que souvent, des pratiques en droit politique, c'est souvent pour l'État ou une municipalité, puis là, ben, on a moins à facturer pour un client qui n'a pas toujours l'argent pour nous payer. Donc, pour plein de raisons, une pratique en droit politique, ça peut être vraiment super pour une carrière.
Vous en parlez avec beaucoup de passion, sans que c'est votre bébé.
Voilà.
La France, vous y avez été, et vous avez ramené cette chanson de France, de Zara.
Elle est québécoise.
Elle est québécoise.
Ouais, elle a représenté la France à l'Eurovision, si vous voulez.
D'accord.
Pour ça qu'on pense parfois qu'elle est française, mais non, elle est québécoise. Elle vient, je pense, d'Afrique du Nord, là, où ses parents, là, mais elle est vraiment québécoise. Ouais.
Je me suis dit que c'était les voyages en France que vous avez fait. Vous avez été étudiant là-bas. Vous avez diplômé là-bas.
Voilà, j'ai fait une session de mon bac à Bordeaux, puis j'ai fait mon doctorat en co-direction là, avec Paris 1.
À la Sorbonne.
Voilà.
À Sorbonne. Bon, voilà, quand même. Ouais. est-ce que c'est lié à ce voyage en France, cette chanson très belle, un peu triste, et qui est un peu véridique? On va l'écouter et on va en parler après.
Certainement.
Même sans goûter, même sans douter. Tu diras que tu m'aimes, mais tu ne penses pas. Même sans goûter, même sans douter. Je dirai que tu m'aimes pas, et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois que j'aime être contre toi?
Tu grandiras comme tous les autres.
Voilà, superbe chanson de La Zara. Pourquoi cette chanson? Parce qu'elle tranche un peu par rapport aux deux autres.
Ouais, ben j'ai fait exprès, là. Je voulais un petit peu varier. En fait, ben, d'abord, je voulais une chanson aussi un peu plus récente, là, parce que les autres datent un peu, là, puis c'est correct aussi. Mais je sais pas, celle-là, c'est que mes filles l'ont beaucoup aimée. Je l'ai entendue par hasard, comme justement quand on a annoncé que La Zara allait représenter la France à l'Eurovision. Ben voilà, ils ont fait jouer cette chanson-là un petit peu à la radio, un peu partout. Et je l'ai fait écouter à mes filles qui ont beaucoup aimé. Et voilà. Donc, à partir de là, on l'écoutait souvent. Puis, il y a aussi la vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur
oui,
YouTube.
Mais du coup, j'ai vu.
C'est
oui.
très beau. Et là, moi, l'an passé, en octobre 2022, je suis allé en Algérie. Cette année, en octobre, j'étais en Corse. Et les paysages dans le...
C'est vrai, c'est la Méditerranée.
C'est la Méditerranée. C'est je ne sais pas si c'est le sud de la France ou la Kabylie
ça
ou la Corse. Là,
ça
mais...
ressemble. C'est
ouais,
vrai
donc,
que...
donc, voilà.
Tout le pourtour méditerranéen est quand même... ça revient.
Exact, ça ressemble beaucoup à ça, donc ça me faisait penser à ça aussi, là, c'est ce qui explique...
Est-ce que finalement, au Québec, on ne réussit pas, au Canada, d'une certaine manière générale, on ne réussit pas à faire justement ce qu'en Europe, on n'arrive pas? C'est-à-dire que les gens, finalement, d'origine, de cultures différentes, etc., il y a une forme de tolérance ici qui tranche avec ce qui se passe en Europe où... On a l'impression que tout est exacerbé, le rejet de l'autre, il y a une espèce comme ça de repli général des gens sur eux, etc. Et ça marche pas, ça coince. Voilà.
Ouais.
Est-ce que finalement l'Amérique du Nord est pas un lieu où tout est possible, y compris ça?
Possiblement, je pense que la situation est différente en Europe et en Amérique du Nord. En même temps. Au-delà des politiques, des mentalités et tout, il y a le fait, bon, il y a l'histoire, donc c'est-à-dire l'Amérique du Nord, forcément, ça a été bâti par l'immigration, et alors que l'Europe de l'Ouest, un peu, mais moins. Donc déjà, il y a ça qui fait que c'est différent. Ensuite, il y a la question de la proximité géographique, c'est-à-dire que l'Europe est tout près de l'Afrique, donc forcément, les pressions démographiques sont en conséquence, alors qu'au Canada, on est loin... un peu des principaux bassins d'immigration. Aux États-Unis, ils sont proches du Mexique, mais on voit que c'est un enjeu assez important là, que le flux migratoire à la frontière sud des États-Unis. Donc voilà, donc il y a différents facteurs comme ça qui jouent. Des fois aussi, on dit qu'on peut être en retard, donc peut-être que dans 10-15 ans, on atteindra les niveaux là, en termes de défis par migratoire que vit aujourd'hui l'Europe. C'est peut-être ça aussi, mais il y a quand même des tensions. Je pense que l'Amérique du Nord n'est pas à l'abri de ça. Mais l'économie va mieux. Ça aussi, ça l'aide. Quand on a beaucoup de chômage, ça peut créer des tensions autour de l'immigration. Quand on est en période de manque de main-d'œuvre, moins. Quoique là, il y a la question du logement qui devient aussi une crise, qui est forcément liée aux politiques d'immigration. Donc oui, effectivement, je pense que la situation est meilleure en Amérique du Nord qu'en Europe par rapport à cela, mais on n'est pas à l'abri de différents problèmes, puis on le voit avec la crise du logement. Là.
Est-ce que vous pensez que l'année 2024 va être une année politiquement cruciale pour l'Amérique du Nord, avec bien sûr d'un côté l'élection américaine, qui est très... dont on se demande quelle va être l'issue finalement. Hein. On voit bien que Trump est très populaire, mais en même temps il risque de ne pas pouvoir y aller, DeSantis risque d'y aller... on entend la rumeur aussi qu'ici, il pourrait y avoir des élections anticipées. Est-ce que 2024 va être une année politique majeure pour l'Amérique du Nord?
Aux États-Unis, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que c'est une élection qui est pas, dont l'issue n'est pas écrite d'avance et qui est particulière en raison de la situation de Trump, dans une moindre mesure de Biden, parce qu'à son âge, des fois, on se demande. Puis là, avec toutes les tensions au Proche-Orient, avec les États-Unis qui jouent un rôle vraiment important là-dedans, c'est effectivement un contexte qui va rendre l'élection possiblement encore plus importante que d'habitude.
Et le Canada?
Et le Canada, même chose. Il n'y a pas nécessairement des élections en 2024, mais là, on sent que l'alliance entre le Parti libéral et le nouveau Parti démocratique, là, on sent que le NPD commence à trouver le temps long un peu, dans le sens où le fait d'appuyer les libéraux, ça ne les rend pas nécessairement populaires. Et leur projet, donc la raison pourquoi il y a une alliance avec les libéraux, donc grand programme pan-canadien d'assurance médicaments, assurance dentaire, ça avance pas nécessairement autant qu'il voudrait. Et donc, effectivement, le gouvernement Trudeau pourrait tomber en 2024. Mais en même temps, les sondages sont tellement bons pour les conservateurs que c'est pas évident parce que là, le NPD... pourrait faire tomber le gouvernement libéral, mais pour se retrouver avec un gouvernement conservateur, probablement majoritaire, donc face auquel, à la limite, le NPD peut rêver de finir devant les libéraux, tellement ça va mal pour les libéraux, mais quand même fortement dans l'opposition face à un gouvernement majoritaire. Donc, un peu comme c'était la situation là, avant 2015 pour le NPD, puis ça les a menés nulle part. Là. Donc, c'est pas évident. Puis même si le NPD devait laisser tomber les libéraux, le Bloc pourrait sauver les libéraux. Faudrait que les libéraux fassent beaucoup de choses pour le Québec. Mais donc, tout ça demeure assez imprévisible, mais il en demeure pas moins probable qu'il y ait une élection en 2024, effectivement.
Vous avez été vous-même candidat?
Oui.
Racontez-nous ça un peu. Comment on vit une élection comme vous avez vécu?
C'est extrêmement intense. Puis dans le cas des élections à date fixe, comme c'est le cas maintenant sur la scène québécoise et fédérale, ça se prépare longtemps d'avance. En tout cas, moi, c'était mon cas. Donc, j'ai été investi candidat dès le mois de février alors que l'élection avait lieu au 1er octobre. Donc, à partir de là, c'est beaucoup de... Surtout à Sherbrooke, une ville qui a beaucoup de médias. Donc, des fois, dans les comtés plus ruraux ou à Montréal, où vous êtes un candidat parmi des dizaines, mais peut-être c'est moins évident. Mais quand vous êtes le candidat dans une métropole de région où il y a Radio-Canada, Cogeco, TVA, etc., il y a beaucoup de médias à faire, beaucoup d'événements, de souper spaghetti, de blé d'Inde, de toutes sortes. Donc, c'est un feu roulant d'activités puis de débats. Des débats, j'ai dû en faire 10 ou 12, plus le porte-à-porte. Donc, c'est extrêmement demandant sur le plan physique, intellectuel, une campagne électorale.
Vous avez aimé?
Oui, l'expérience comme telle, une belle, un beau travail d'équipe et tout. Bon, ensuite, la défaite, c'est, évidemment, c'est pas agréable. Mais la campagne comme telle, oui, j'ai bien aimé.
Vous repartirez pour un tour un jour?
Peut-être, mais probablement pas à court terme.
Alors, une team chanson que vous avez choisie, la chanson de Raymond Lévesque, « Quand les hommes vivront libres ». Vous allez dire pourquoi cette chanson, puis ça sera vos mots de conclusion pour cette émission.
Oui, quand les gens vivront d'amour, donc probablement la plus belle chanson de l'histoire de l'humanité. Et encore là, il y a un lien avec la France. Ça a été composé par Raymond Lévesque lorsqu'il était à Paris en 1956, dans le contexte de la guerre d'Algérie. Donc d'où son appel à l'amour.
Oui, effectivement, voilà. c'est le contexte qui en rappelle d'ailleurs un autre actuellement aussi.
Voilà.
Avec malheureusement un monde un peu chaotique par les temps qui courent. Espérons que cette chanson puisse être entendue. Guillaume Rousseau, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Voilà, ça a été un vrai plaisir. Et on écoute cette belle chanson qui clôturera donc notre émission de ce jour. Je vous souhaite à tous une bonne semaine de relâche, car je sais que c'est la semaine de relâche.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours, mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours, mais nous serons morts, mon frère. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons au mauvais jour, dans la haine et puis dans la guerre, chercher la paix, chercher l'amour,
qu'ils connaîtront alors mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse, ici-bas c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons morts, mon frère.